Michael Ponge présente maintenant le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Il est 8h10 à Lima. Pedro Castillo, le président péruvien un peu plus fragilisé encore, son premier ministre démissionne. C'est le quatrième en un an à peine. Des opérations qui se multiplient, des arrestations largement médiatisées. En Haïti, la police affiche ses résultats face aux gangs. Serait-on à un tournant? On en parlera avec Franz Duval du Nouvelliste. Et puis avec vous Benoît Ferrand dans le journal de la première, c'est à Marie-Galante que l'on ira.
Marie-Galante, au sud de la Guadeloupe, où un vénérable moulin à vent va bientôt faire l'objet d'un ambitieux programme de rénovation.
À tout à l'heure, Benoît, dans une quinzaine de minutes. Avant tout cela, je vous emmène pour commencer au Chili. On est à Santiago, la capitale, où se trouve l'école Selena. Gratuite et indépendante, elle est surtout la toute première au monde à accueillir des enfants transgenres. Ils sont plus de 70, âgés de 6 à 18 ans, à bénéficier d'un enseignement un peu différent, dispensé par des professeurs tous volontaires. C'est le dossier du jour, il est signé Naïla Dorouane.
C'est dans une maison de quartier du centre de la capitale que l'école Selena a installé ses chaises et ses tables. Ophélia, 15 ans, un trait épais de crayon noir sur les yeux, est une jeune fille transgenre. Elle est arrivée dans l'établissement il y a quelques mois. Avant, elle était scolarisée dans un collège traditionnel.
Certains professeurs ne me prenaient pas au sérieux et plusieurs élèves se moquaient de moi. Beaucoup de gens comparent encore les personnes transgenres à des malades ou pensent que nous sommes homosexuels.
Ophélia a pris conscience qu'elle était trans quand elle avait 12 ans.
Ça faisait longtemps que je sentais que quelque chose était différent en moi. Et puis j'ai commencé ma transition à 15 ans après que mon père a quitté la maison, car c'est quelqu'un de violent et fermé d'esprit. Mais je me sens un peu seule car ma mère ne se préoccupe que de l'aspect légal, signer les papiers pour le changement de nom ou le traitement hormonal. Mais elle n'aime pas parler du sujet.
Depuis qu'Ophélia a intégré l'école Selena et qu'elle s'est fait des amis, tout est différent.
Je me sens protégée et sûre de moi. Je me souviens du premier jour où j'ai mis une jupe. C'était pour venir ici. J'étais très émue.
Ici, on enseigne les maths, la littérature, l'histoire, mais toujours avec une vision transféministe, explique Constanza, professeure de philosophie et bénévole.
Au Chili, nous avons des autrices et auteurs transgenres qui écrivent de la poésie. Pourquoi ne pas s'en servir? Les enfants ont besoin de références. Nous adaptons ces contenus et nous les étudions pour que les jeunes sachent qu'ils ont plusieurs possibilités.
Macarena abonde également en ce sens. Elle enseigne l'histoire-géographie et c'est une femme trans.
Aujourd'hui, même si c'est moins qu'avant, on pense encore que l'unique chemin pour les personnes transgenres, c'est la prostitution. Mais évidemment, en réalité, il y a plein d'autres possibilités qui existent. Il faut transmettre ça aux enfants transgenres pour qu'ils se rendent compte que nous ne sommes pas condamnés à finir dans la rue. Et il faut aborder ces sujets avec une personne qui est elle-même transgenre. Ça a encore plus d'impact pour eux.
L'établissement est né en 2018 suite à la mobilisation de mères qui ne supportaient plus de voir leurs enfants souffrir dans le système scolaire traditionnel, raconte Constanza.
On ne respectait pas leur nom social, ils ne pouvaient pas porter les uniformes qui correspondaient à leur genre ressenti, et la question des toilettes aussi, ou le comportement des camarades de classe, des professeurs et même des parents d'élèves était problématique.
Aujourd'hui au Chili, il existe une circulaire sur le respect de l'identité de genre dans les écoles, mais c'est loin d'être suffisant.
Les enfants continuent d'avoir peur en sortant dans la rue. Ils n'ont toujours pas assez de droits, ils sont toujours invisibles. Je crois que dans la pratique, il reste beaucoup à faire. Et je sens malheureusement que certains se contentent de simples lois.
L'école reçoit des menaces et des messages de haine, souvent de groupes religieux. Cynthia, la maman d'Emma, scolarisée dans l'établissement depuis 2 ans, est inquiète en permanence.
J'ai toujours peur que ma fille ne puisse pas être qui elle est. Et j'ai peur qu'on la tue aussi. Parce que la société est très violente. Mais en tant que mère, je vais la soutenir quelles que soient ses décisions. Et avec le reste de la famille, nous serons toujours là pour elle.
Aujourd'hui, Cynthia aimerait que la société chilienne soit plus ouverte et en empathie avec ses enfants qui ne demandent qu'à exister. Naïla Dorouane, Santiago, RFI.
9h15 à Santiago, une heure de moins à Lima, le Pérou, où l'on part tout de suite. Et c'est avec vous, Christophe Paget, bonjour.
Bonjour.
Le Pérou, ça tangue encore et encore au sommet de l'État. Le Premier ministre Aníbal Torres plie bagage. Il est ainsi le quatrième chef de gouvernement à démissionner en un an de mandat du président Castillo. Évidemment, ça fait la une de la presse.
Oui, Pérou 21 précise qu'Aníbal Torres a également posté sur les réseaux sociaux la lettre qu'il a envoyée au président, dans laquelle il profite de cette opportunité pour remercier le président de la confiance qu'il lui a témoignée, d'abord en tant que ministre de la Justice, puis comme Premier ministre. Une démission, précise le journal, dont l'ex-Premier ministre n'a pas vraiment donné les raisons.
Et ce qui interroge justement au Pérou, le docteur en sciences politiques péruvien Daniel Iglesias a une hypothèse. Écoutez.
L'ex-premier ministre, pour expliquer sa démission, affirme qu'il veut retourner dans le domaine académique, dans les amphithéâtres des universités. Nous parlons d'une personne qui a 79 ans et qui est retraitée de ce domaine académique. Donc cela semble plutôt être une manière de dissimuler la vérité. Et on peut interpréter cette démission comme une première fissure dans la coalition qui appuie le président Pedro Castillo. Le pays est devenu très difficilement gouvernable. Et personnellement, je ne pense pas que Pedro Castillo puisse terminer son mandat dans ces conditions, parce que d'une manière ou d'une autre, il va lui manquer une équipe, des ministres, des gens avec qui travailler. Et la population commence déjà à perdre patience. Le rejet auquel fait face le président péruvien est très élevé.
Des propos recueillis par Orlando Torricelli. Christophe, ce départ n'est toutefois pas une réelle surprise.
Oui, la Repubblica rappelle que cette démission intervient après une semaine de spéculations sur de possibles changements dans le gouvernement et précise qu'il y a quelques jours déjà, le parlementaire américain Gonza de Pérou Libre, le parti membre de la coalition au pouvoir, évoquait un départ probable du Premier ministre. Je crois qu'il a fait son temps. Pour la Repubblica, Aníbal Torres s'est surtout distingué pendant un an par sa ferme défense du gouvernement de Pedro Castillo et par plusieurs polémiques lorsqu'il a pris en exemple Adolf Hitler ou quand il a critiqué les forces armées. Dans Pérou 21, l'ancienne présidente du Congrès, Maria del Carmen Alba, estime qu'il faut chercher un nouveau Premier ministre en dehors du gouvernement, quelqu'un de plus indépendant, qui ne soit pas un béni oui-oui et qui ne dise pas au président que tout est parfait.
On lui souhaite un début de mandat plus serein. En Colombie, Christophe, Gustavo Petro prendra ses fonctions de président dimanche. Et voilà que le plus puissant groupe dissident de l'ex-guérilla des FARC lui propose un cessez-le-feu.
Oui, à travers une vidéo postée ce mercredi, raconte El Heraldo, le groupe connu sous le nom de Bloque Sur Oriental et fort d'environ 2000 membres, avait refusé l'accord de paix de 2016. Il propose maintenant un cessez-le-feu pour trouver, souligne El Universal, une sortie politique au conflit qui ensanglante le pays depuis plus de 50 ans. El Universal qui titre sur la réapparition d'Iván Moldisco. Car comme l'explique El País, ce qui retient le plus l'attention dans ce communiqué, c'est que le groupe affirme que son négociateur pour la paix sera Iván Losada, connu sous le nom d'Iván Moldisco, dont la mort avait été annoncée le 15 juillet dernier dans une opération des forces de sécurité. El Universal rappelle que la police n'avait jamais retrouvé le corps.
8 ans de prison pour un ex-député, ça c'est au Venezuela.
Oui, Juan Requesens, condamné aujourd'hui pour conspiration. Efecto Cocuyo rappelle que l'homme politique avait été arrêté le 7 août 2018, accusé d'avoir organisé avec d'autres un attentat au drone contre le président Maduro, qui se serait déroulé 3 jours avant. Le gouvernement avait alors accusé la Colombie d'avoir organisé l'attentat avec l'aide des États-Unis et du Pérou. Selon l'avocat de Juan Requesens, la justice n'a pas réussi à prouver sa culpabilité. 8 autres accusés ont écopé de peines allant de 20 à 30 ans de prison, rapporte El Nacional.
Plongé dans une crise économique sans fin, affectée par l'embargo américain, privé de tourisme aussi à cause de la pandémie de Covid depuis 2 ans, Cuba tente le coup et sort de sa manche ce qu'elle espère être la martingale. À compter d'aujourd'hui, les banques et les bureaux de change vont pouvoir acheter des dollars américains échangés dans l'économie informelle au même prix qu'au marché noir. Écoutez le ministre de l'économie, Alejandro Gil, à ce sujet.
La décision que nous prenons en ce moment est un premier pas associé à l'achat de monnaie étrangère. De toutes les monnaies étrangères, y compris les dollars en espèces, le taux de change sera supérieur à celui qui existe aujourd'hui. Ce taux de 120 pesos cubains pour 1 dollar américain que nous établissons aujourd'hui est seulement destiné à l'achat de devises. Et lorsque nous commencerons ces opérations d'achat et de vente, nous aurons un taux de change qui équilibrera la demande et l'offre.
Voilà, explication un peu complexe, Christophe, pour finalement une raison assez simple.
Oui, l'objectif est de motiver les gens pour qu'ils vendent des devises à l'État, explique Martha Sabina Wilson, la présidente de la Banque centrale, citée par 4 Medio. Pour le journal d'opposition, le grand perdant de cette annonce, c'est le salaire des fonctionnaires qui n'ont pas d'entrée en devises, en monnaies étrangères. Avec ce taux, le gouvernement reconnaît qu'un professionnel peut gagner chaque mois à peine un centième de dollar après des journées complètes de travail. Alors que, souligne le journal, le pays connaît sa pire crise économique depuis 20 ans.
Enfin, Christophe, on termine ensemble aux États-Unis. La voix que l'on entend, c'est celle du sulfureux complotiste américain Alex Jones, qui avait affirmé que la tuerie de l'école élémentaire de Sandy Hook en 2012 n'était qu'une mise en scène, alors que 26 personnes, dont 20 enfants, on le rappelle, avaient été tuées. Alex Jones est jugé depuis 10 jours. Christophe, le jury entame aujourd'hui ses délibérations.
Le grandiloquent Alex Jones, rappelle le Washington Post, a affirmé pendant des années à ses millions de followers que le massacre de 2012 n'était qu'un canular, que les enfants n'avaient pas été tués et que les parents étaient des acteurs dans un stratagème élaboré pour pousser à un plus grand contrôle des armes. Hier, devant un jury qui pourrait le condamner à payer 150 millions de dollars, Alex Jones expliquait qu'il comprenait maintenant avoir agi de manière irresponsable et que le massacre le plus meurtrier à s'être déroulé dans une école des États-Unis était réel à 100%.
C'est 100% réel.
Mais, écrit le Washington Post, pour les parents de Jesse Lewis, enfant âgé de 6 ans, ses excuses, Christophe, ne suffisent pas.
Dans leur témoignage hier, ils ont parlé de 10 ans de traumatisme, infligé bien sûr par la mort de leur fils, et par ce qui a suivi, des coups de feu tirés sur leur maison, des menaces en ligne et au téléphone, et un harcèlement de rue par des étrangers, le tout alimenté par Jones et sa théorie du complot servie à ses abonnés sur son site Infowars. Un site, rappelle le Texas Tribune, banni en 2018 de nombreuses plateformes, YouTube, Facebook, pour avoir violé leur règlement sur les discours de haine. Alex Jones affirme avoir alors perdu des millions de dollars, mais selon l'avocat des parents de Jesse Lewis, son revenu aurait en fait augmenté.
Christophe Paget pour la presse, merci. Il est 9h22 à Port-au-Prince, l'actualité haïtienne tout de suite.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
La PNH au travail, les politiciens en vacances et le change vers 150 gourdes pour 1 dollar. Voilà la situation actuelle. On a été résumé en 3 points. C'est le titre de votre éditorial aujourd'hui, Franz Duval. Bonjour.
Bonjour, Michael.
Rédacteur en chef du Nouvelliste. Franz, reprenons d'abord la PNH, la police nationale d'Haïti. Vous lui consacrez votre une ce jeudi. Alors que le crime est partout, la PNH fait de son mieux. Un saut qualitatif dans les opérations est observé, dites-vous. Et vous vous interrogez, assistons-nous là à un virage ?
Tout à fait. Et ça fait quelques mois que le Nouvelliste observe qu'il se passe quelque chose au sein de la police nationale d'Haïti. Il y a beaucoup plus d'opérations réussies, il y a des interceptions de bandits, il y a des arrestations, il y a souvent des affrontements, il y a des bandits qui sont tués, il y a des policiers aussi qui sont tués. Sauf que la police, de plus en plus, va là où se trouvent les problèmes, particulièrement ceux qui détroussent les camions de transport de marchandises et ceux qui attaquent certaines personnes pour les kidnapper. La police a eu à faire beaucoup d'interventions aussi de la sorte. Et de plus en plus, la police s'attaque à des chefs de gang, pas les plus importants, mais les numéros 2, les numéros 3 de beaucoup de gangs connus à Port-au-Prince. Ils sont soit arrêtés ou soit meurent dans des échanges de tirs avec la police. Et les statistiques ne sont pas encore vraiment bien établies, mais les informations qui sont diffusées par la police, les images qui circulent sur les réseaux sociaux prouvent que la police fait des actions aussi bien à Port-au-Prince, mais aussi dans d'autres point chaud de la République d'Haïti.
La police qui communique notamment, en effet, beaucoup sur son compte Facebook. Pendant ce temps, les politiciens, eux, font ce qu'ils savent faire le mieux, perdre du temps et se diviser. Je reprends là aussi vos mots, Franz, référence à l'impasse politique. Hein. Les tenants de l'accord de Montana ne veulent plus discuter avec le pouvoir en place des modalités de la transition et la primature, eh bien, elle, se dédouane.
Tout à fait. Il se trouve que cette semaine, on a appris que ceux qui portent l'accord de Montana ont décidé d'arrêter toute tentative de dialoguer avec le pouvoir. Il faut dire que le pouvoir en place avait essayé de noyer les négociations en ouvrant le plus que possible les négociations à des secteurs qui n'avaient même pas demandé de négociations. Mais bon, c'est une façon de faire. Il faut dire que tactiquement, à chaque fois que les négociations sont annoncées, le Premier ministre Ariel Henry finit toujours par éreinter, faire fuir ceux de l'accord de Montana. Les deux camps n'arrivent pas à se parler, n'arrivent pas à s'entendre. Ça fait plus d'une année que cela dure et il n'y a rien qui annonce que cela va changer.
Et dernier point, dans ce contexte, France, que vous évoquez aujourd'hui aussi dans votre éditorial, eh bien c'est l'inflation qui, pendant ce temps, eh bien, continue sa course à la hausse, tandis que la monnaie nationale, elle, se déprécie toujours plus.
Tout à fait. Les chiffres officiels de l'inflation en Haïti, c'est 29%. C'est la première fois depuis 2003 qu'on a un taux d'inflation aussi élevé et cela a des conséquences. Cela a des conséquences sur les prix, sur la vie de tous les jours. Il y a toujours des problèmes pour s'approvisionner en essence, pour circuler, à cause de l'insécurité, mais aussi à cause de la non-disponibilité des produits pétroliers et des prix élevés des produits pétroliers quand on arrive à les trouver sur le marché noir. Et le dernier coup de grâce, c'est le taux de change goût-dollar. Il faut dire que ce taux de change, c'est un taux qui est libre, totalement libre. Le marché fixe ses prix. Eh bien, hier, on achetait à 145 gouttes, 148 gouttes, 1 dollar américain, et tout indique qu'on s'achemine pour ce mois d'août 2022 vers 150 gouttes pour 1 dollar. Ce sont des montants qu'on n'a jamais atteints dans l'histoire de la décote de la gourde en Haïti. Et ça aussi, cela pèse sur les prix. Il faut dire que c'est une course sans fin. Le gouvernement fait des déficits budgétaires, imprime des gourdes. Ces gourdes vont à la recherche de dollars parce qu'Haïti importe quasiment tout ce qu'il consomme. Et le dollar se fait plus cher, plus rare. Et à chaque fois, les prix augmentent et les plus pauvres deviennent encore plus pauvres.
Un cercle vicieux donc. Et c'est à lire dans votre éditorial et dans les pages du Nouvelliste de ce jeudi. Franz Duval, rédacteur en chef, en ligne avec nous de Port-au-Prince. Merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Le moulin à vent de Marie-Galante va bientôt faire l'objet d'un ambitieux programme de rénovation.
Ultime vestige d'une plantation du 19e siècle, laissée à l'abandon depuis plus de 20 ans, bien que classé monument historique, le vieux moulin va revivre au sein d'un complexe agrotouristique Belle-Île-en-Sucre, qui produira du rhum et du sucre bio. Le chantier se fera en deux étapes. Josiane Champion, la première Guadeloupe.
La première, qui doit démarrer en décembre, sera la restauration du moulin, les ailes et la bâtière du toit et de la placette agriculturelle où demeurent les structures des cases en golette issues de la première rénovation. L'espace qui sera livré fin 2023 accueillera 10 boutiques de vente de produits agro-transformés et artisanaux. La deuxième étape sera la construction d'une unité agro-industrielle avec une sucrotte pour montrer comment se fabriquait le sucre à l'époque des moulins à vent, une petite unité sucrière pour des produits de niche, divers sucres de bouche aromatisés et à côté enfin une mini distillerie pour du rhum premium. Du sucre et du rhum à haute valeur ajoutée puisqu'ils seront certifiés bio. Cela devrait impliquer à terme 100 à 150 hectares de canne. Les négociations sont engagées avec les planteurs potentiellement intéressés. Les travaux de cette unité agro-industrielle de Bézard devraient démarrer au premier trimestre 2023 pour une livraison fin 2024.
Direction la Martinique maintenant avec cette étude portant sur l'innocuité des algues sargasses, autrement dit faire passer les envahissantes algues brunes du stade de nuisible au stade d'utile, pourquoi pas. Un projet intéressant selon Mike Bernus, directeur d'une société spécialisée dans la transformation des algues en engrais. Il est au micro de Christine Cupic.
C'est le sujet d'étude Eco300 qui consiste effectivement à travailler sur l'innocuité des algues sargasses et ce qui était possible, en tout cas en termes de valorisation, d'être réalisé. Ce sont des matières qui revêtent effectivement un certain intérêt par rapport à certaines molécules d'intérêt, les alginates, même l'arsenic, on ne sait jamais, puisqu'il est également réalisé des médicaments contre le cancer à partir d'arsenic. À partir du moment qu'il existe des voies potentielles de revalorisation avérées, que des recherches complémentaires puissent être réalisées pour justement élargir ce champ de revalorisation et voir ce qui pourrait être retiré de mieux. On parle de sujets de problématiques de pollution de sol, de pollution de nos plages, etc. Bon, du moment qu'il y a une première étape de franchie et de faite, c'est la recherche et le développement qui fera tout le reste et la différence par rapport à ce qui peut être envisagé.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Merci à Victor Hull aussi qui est à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, à retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux de notre rendez-vous, mais aussi sur RFI Pure Radio. Très bonne journée à tous et comme dirait Benoît Ferrand, à demain.